Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
C'est l'histoire d'un mythe, d'une utopie. Elle reste souvent un symbole à travers ses valeurs. Elle avance péniblement vers son idéal, mais elle demeure une référence. Le monde et la géopolitique ne lui sont plus très favorables et la verraient bien disparaître. Une poignée de grognards décident d'agir pour lui éviter le renoncement et sa soumission. Ils savent que les plaies des peuples ne guérissent jamais, que la guerre a toujours une raison, mais aussi que les hommes ne tuent pas par haine, mais par amour pour leur Dieu. Ils sont conscients qu'elle n'a plus de Dieu et que c'est peut-être là bien son talon d'Achille. Ils ont décidé de la sauver et d'assurer son avenir, de lui permettre de rester un idéal mobilisateur, un support de croyance. Ils, ce sont des grognards, les personnages du roman militant de Pierre Tabarin intitulé « Et Zeus enleva Europe » paru en 2024 chez Nombre 7 éditions. Et elle, c'est tout simplement l'Europe. Bonjour Pierre Tabarin.
Bonjour.
Ravi de vous revoir à Parole d'auteur. Vous étiez en effet venu il y a quelque temps nous présenter votre livre « Le Citoyocène ». Donc c'est avec plaisir que nous vous rouvrons l'antenne de Parole d'auteur.
Merci.
Je salue nos fidèles auditeurs en leur rappelant qu'ils peuvent réagir à cette émission et la retrouver en podcast via toutes les grandes plateformes numériques et notre site internet. Pierre Tabarin, première question. L'Europe a-t-elle besoin d'être romanesque ?
Je crois qu'elle n'a pas besoin de l'être. Je crois qu'elle l'est par définition. C'est peut-être son originalité que d'être un roman. Qu'est-ce que c'est un roman ? C'est une idée que l'on a, que l'on essaye de faire partager. C'est un but que l'on essaye d'atteindre. Et l'Europe étant fondamentalement une construction humaine voulue à partir de siècles de guerre entre tous les Européens, c'est une démarche effectivement romanesque dans la mesure où il y a quelque chose un petit peu d'irréel dans cette démarche. Et finalement, quoi qu'on en dise, depuis que c'est créé, ça n'a pas cessé d'avancer.
Donc la nature même de l'Europe était un bon terreau pour un roman.
Oui, je crois, il y a eu beaucoup de choses décrites sur l'Europe, bien évidemment, des essais, des approches historiques, des romans. Et ce livre a été écrit à la fin de l'année dernière, un peu avant les élections européennes de 2024, qui étaient bien évidemment ces élections, une opportunité de réfléchir sur l'Europe. Mais comme toute élection, elle est beaucoup plus avant tout tournée vers les intérêts des différents candidats qui mettent en avant telle ou telle préoccupation et tel ou tel programme plutôt qu'une réflexion sur le fond.
Alors nous allons revenir en détail à votre roman. Juste avant, j'aimerais rappeler quelques éléments de votre biographie pour nos auditeurs. Donc je rappelle que vous êtes ancien cadre dirigeant, maintenant à la retraite, que vous avez même été élu local dans le Gers et que depuis peu de temps, vous êtes bâillonné.
Tout à fait, jusque-là, c'est très exact ce que vous venez de dire.
Voilà. Vous nous aviez dit que vous vous occupiez d'une association, une organisation qui était dédiée au transfert générationnel de compétences. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Oui, c'est toujours le cas dans le cadre de cette association nationale qui s'appelle ECTI. J'ai la responsabilité d'animer un projet qu'on appelle le projet prioritaire RSE, responsabilité sociale des entreprises, parce que l'entreprise m'a toujours intéressé, ayant été directement concerné par mes fonctions bancaires. Et puis, d'un autre côté, j'ai indiqué sur mon profil LinkedIn pour me présenter citoyen gourmand de vie économique, civique et associative. Ça veut dire que j'ai toujours cherché à avoir des responsabilités associatives. J'ai aussi été dans le passé, été président national de la Jeune Chambre économique française, des activités économiques et des activités civiques, puisque j'ai été élu dans le Gers. J'avais été élu autrefois conseiller municipal à Montluçon. Donc tout cet ensemble fait que je suis toujours à l'écoute de ce qui se passe, ouvert sur l'évolution du monde, en essayant d'être un citoyen actif.
Alors, ces domaines d'intérêt sont devenus, bien évidemment, vos domaines de prédilection par rapport à ce que vous écrivez. D'une manière générale, on peut les qualifier par les valeurs issues des Lumières, liberté, démocratie, laïcité. Vous avez écrit des ouvrages qui traitent du dialogue, de l'équilibre social, de la philosophie de l'altérité. Tout ce qui tourne autour du civisme, vous l'avez aussi mis en écriture, si on peut dire. Et donc, c'est à partir de tous ces écrits que vous avez réalisés que vous avez eu l'idée de publier un roman, sachant que jusqu'à présent, sur ces thèmes-là, vous aviez développé des ouvrages qui étaient soit des essais un petit peu romancés, et vous avez décidé de basculer un petit peu dans le roman. Alors, quelle a été votre démarche et est-ce que ça a été facile ?
L'écrivain philosophe Isaac Berlin dit qu'il y a deux types d'écrivains ou d'auteurs, les hérissons et les renards. Les hérissons sont ceux qui mettent en avant une réflexion très profonde, éventuellement plus ou moins facile d'accès. Il cite par exemple Pascal. Et les renards, eux, sont plutôt ceux qui observent ce qui se passe autour d'eux, décrivent la société, leurs ressentis, font partager leur analyse à un moment donné de la société. Et il cite Balzac et Montaigne. Toute proportion gardée, bien évidemment, il n'y a aucune comparaison. Je ne suis qu'un modeste auteur, je suis plutôt renard. Et je suis renard dans le sens où il y a quelque chose qui me paraît important, et ça nous ramène au grec, qui a été dit par ce brave Aristote, l'homme est un animal social. Donc au travers de mes différents livres, finalement, quand on regarde un peu ce que j'essaye d'évoquer par un biais ou par un autre, sous un angle ou sous un autre, c'est la place de l'homme dans la société, son rôle dans le groupe, sa participation active en tant que citoyen et ce qu'il peut apporter aux autres. D'où les notions de civisme, d'où les notions d'altérité, d'où les notions de respect de l'autre. Et je l'ai traité effectivement dans mes différents livres, non pas sous forme d'un essai, c'est-à-dire quelque chose d'assez aride qui défend une thèse, puisque dans tous mes livres, il y a toujours eu des personnages, parce que tel que je ressens, le fait d'avoir des personnages, d'une part, humanise un petit peu le texte, et puis d'un autre côté, j'ai découvert ça en écrivant des livres, ça permet de mettre dans la bouche des personnages des choses, des idées, et de l'exprimer d'une façon différente. D'ailleurs, c'était très amusant parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression que le personnage existe et que c'est plus nous qui le faisons parler, quoi. Et après avoir traité différents sujets comme ça dans une dimension plutôt nationale, je me suis dit, mais l'Europe, les élections approchant, etc. Donc, c'est un sujet tout à fait d'actualité. C'est pas un sujet récent, c'est un sujet d'actualité qui évolue. On peut avoir beaucoup d'analyses différentes à ce sujet-là, être optimiste ou moins, mais ça m'a paru une idée qui méritait d'être travaillée sous cet angle du civisme, de la responsabilité du citoyen. Et puis, il se trouve, et là je tiens à le dire à vos auditeurs, que lorsque je suis venu vous voir parler du Citoyocène, où on a évoqué ces essais un petit peu romancés, vous m'avez dit, mais il faut aller plus loin, augmenter le nombre de personnages, et puis trouver une intrigue qui permet, autour du thème que vous développez, qui permet eh bien, d'avoir de susciter l'intérêt du lecteur et puis de le faire réfléchir au travers des aventures des personnages. Donc je m'y suis mis et très honnêtement, je n'ai pas trouvé ça plus difficile que les autres livres parce que j'avais sans doute un petit peu en tête les thèmes que je souhaitais mettre en avant. Ensuite, il fallait imaginer des personnages et puis une situation. Et il m'est venu assez rapidement que le fait d'avoir, comment dirais-je, les aventures d'un Grec et d'une Française qui se marient, c'était quand même un lien assez idéal et assez historique pour évoquer le sujet. Voilà.
Alors effectivement, pour cette première, c'est-à-dire ce basculement que l'on pourrait qualifier total dans le roman, à mon avis, c'est une grande réussite parce qu'effectivement, il y a des personnages, il y a une intrigue. Et dans la manière dont vous posez les personnages, vous posez l'intrigue, il y a à la fois le côté romanesque et le côté proche de la réalité, parce que l'on peut savoir, par ailleurs, à travers les médias. Donc, on est embarqué dans un roman et dans une histoire qui est plausible.
Oui, l'histoire, comment dirais-je, un certain nombre de faits historiques sont évoqués, notamment des faits historiques d'actualité, donc qui correspondent à une réalité que l'on peut vivre, et ça fait aussi bien sûr référence au passé, à toute l'histoire. Et l'originalité peut-être du livre, c'est que il y a à la fois du mythe et de la réalité. Hein, on pourra revenir sur le mythe d'Europe et ce que ça a apporté, mais il y a effectivement beaucoup de réalité qui permet de voir, de réfléchir sur la façon dont on peut se comporter face à la réalité. Notamment, il y a deux choses qui sont mises en avant dans le livre. Veut-on être en paix ou avoir la paix ? Avoir la paix, je suis tranquille, je m'occupe de rien. Être en paix peut être plus exigeant. Et puis, comme vous l'évoquiez dans la présentation, ce qui est issu d'un livre célèbre, les hommes ne tuent pas par haine, mais par amour pour leur Dieu. Dieu étant conçu au sens très très large, hein, ça peut être un territoire, ça peut être des ressources économiques, etc. Bref, ce qui les motive, ce à quoi ils sont très attachés. Et c'est intéressant de noter cette phrase-là, parce que vous l'avez sous-entendu dans votre propos. Quel est le Dieu pour les Européens aujourd'hui, pour lequel on a envie de se battre, éventuellement de mourir? Qu'est-ce qui est sacré au sens premier du terme? Ce qui est sacré, c'est ce pourquoi on est prêt à se sacrifier. Donc c'est une question qui interroge tous les Européens.
Alors nous allons avoir l'occasion d'y revenir plus en détail. Comme vous le disiez à l'instant, il y a cette notion de mythe. Alors cette notion de mythe, elle transparaît par le titre. Et Zeus enleva Europe. Alors vous pouvez nous expliquer un petit peu le choix de ce titre et ce qu'il y a sous ce titre?
Alors le choix du titre, c'est pour sensibiliser le lecteur. Il est un petit peu accrocheur le titre, hein, parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement l'histoire de Zeus et d'Europe. Et quand je dis l'histoire, c'est un mythe, c'est une légende. Hein, ça n'a jamais été vraiment historique. Et puis c'est volontaire dans le livre, si ici ou là, au travers des propos des uns ou des autres, on voit tel ou tel aspect qui découle du mythe. Le but du livre est plutôt d'inciter le lecteur à aller chercher le mythe, à se renseigner sur le mythe, parce que le mythe n'est pas expliqué en tant que tel dans le livre. Alors, quel est le mythe d'Europe et quelles sont, comment dirais-je, les idées, les points sur lesquels il repose? Première idée, la notion de séparation. Zeus enlève une princesse phénicienne, donc elle est séparée de son milieu, de sa famille, il y a rupture. Deuxième notion de rupture, la rupture géographique, qui est très importante, parce qu'elle vivait, c'est une princesse phénicienne, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure. On voit tout de suite la rupture entre l'Asie qui s'arrête là et ce qui est devenu l'Europe, alors que de Vladivostok à Brest, ça fait un seul ensemble, hein, donc il y a une notion de rupture. Et puis, dans ce que dit Heinz Weismann, qui est un philosophe allemand qui a beaucoup travaillé sur le mythe, il y a ce qu'il appelle la rupture du dedans. C'est la rupture interne à chaque personne, et c'est quelque chose d'original dans la démarche européenne, c'est le fait que chacun de nous est une personne avec personnalité qui est propre à nul autre pareil, et en même temps, chacun de nous qui vit en collectivité est un citoyen. On voit bien l'écart, la rupture hein, qui peut exister, ces deux personnages, ces deux attitudes, c'est la même, mais en fait, c'est deux choses différentes, ce qui amène, bien sûr, et les Grecs hein, sont beaucoup intéressés à cette notion de citoyen, derrière, petit à petit, la notion de démocratie. Hein. Donc, il y a cette notion de rupture physique apparente qui génère cette notion, ce qu'il appelle la rupture du dedans, que l'on ressent bien. Et alors, il y a deux, trois autres choses aussi dans ce mythe qu'il convient de noter. Le mot « Europe » vient de deux mots grecs, « Euris » et « Ops ». Le premier veut dire « large » et le deuxième « les yeux ». Une vue large. Intéressant comme idée, peut-être capacité à mieux voir les choses ou aller voir plus loin, hein, à réfléchir. Autre idée aussi dans ce mythe, « Europe est une femme ». Est-ce que l'Europe aurait un côté plus féminin? Dans un monde où il y a aujourd'hui pas mal de testostérone, on peut se poser la question. Et puis, dernier point qui est à noter aussi, même si c'est dans la mode grecque, il y a une intervention divine. Hein, et c'est Zeus, le dieu des dieux. Hein. Donc il y a quand même dans ce mythe énormément de choses quand on essaye de les décomposer de cette façon-là. Et quand on les analyse, qu'on prend le temps d'un petit peu de recul par rapport à ces notions, on se rend compte combien le mythe est fort et puis imprègne encore, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours, notre vie quotidienne de citoyen.
Et ce mythe, on peut le voir d'une part à l'échelle d'une nation, d'un pays, et à l'échelle même de l'Europe, finalement, parce que les considérations sont un petit peu parallèles, sauf que peut-être avec l'Europe, c'est une dimension plus large. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que l'Europe est marquée par ces considérations-là, toutes celles que je viens d'évoquer. Plus ou moins, peut-être, suivant les pays, mais malgré tout, il y a des points communs. Parce que, quand même, ce qui est derrière ça, c'est ce qu'on a appelé l'humanisme. Hein? L'humanisme qui s'est particulièrement développé à la Renaissance, dans tous les pays d'Europe, sous une forme, sous une autre. Ensuite, ça a été repris et ça a évolué au niveau des Lumières. Là aussi, les Lumières, ça a quand même toute l'Europe, même si y a eu des choses qui ont été exportées ou ensuite un petit peu apportées des États-Unis, c'est quand même fondamentalement en Europe que sont nées ces idées-là, qu'elles ont vécues et qu'elles ont évolué dans le temps. Donc, il ne faut pas du tout, sous-estimer l'importance de ces idées au niveau européen, parce que elle joue un rôle dans l'histoire des peuples et puis dans le subconscient des Européens, j'en suis convaincu.
Alors l'Europe, c'est un mythe, c'est peut-être plus qu'un mythe, et puis l'Europe, on essaye de la personnaliser, de lui donner plus qu'une âme, un corps, et on lui a d'abord donné une hymne, une ode, qui est la 9e symphonie de Beethoven, que je vous propose d'écouter maintenant.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Que la joie qui nous appelle nous accueille en sa clarté, que s'éveille sous son aile l'allégresse et la beauté. C'est le poème qui a inspiré cette ode et qui est un poème de Schiller, si je ne me trompe pas.
Tout à fait, ce poème est une ode à l'unité, à la fraternité, et ça a été un très bon choix, je pense, de s'appuyer sur ce texte et puis sur cette musique pour symboliser l'Europe.
Voilà. Et on peut rappeler que le Conseil de l'Europe a fait du thème musical de l'Ode à la joie, c'était en 1972. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Pierre Tabarin pour son ouvrage « Et Zeus enleva Europe » paru en 2024 aux éditions Nombre 7. Pierre Tabarin, vous avez commencé à nous planter le décor de ce roman. Est-ce que vous pourriez nous préciser le contexte et le constat de départ qui est fait implicitement au début du roman ?
Alors, il y a différents personnages. Les deux personnages de base sont un homme grec et une femme française qui se rencontrent et qui vont se marier. Et ce qui est intéressant dans les personnages, je ne vais pas dévoiler tout ce qui leur arrive ici, mais c'est le clin d'œil qu'il y a derrière. Lui, il est grec dans l'import-export. Les Grecs ont toujours été actifs dans le domaine du commerce, par mer notamment. Elle est professeure d'université en France. Donc on voit d'un côté le côté un peu affairiste, l'autre côté le côté culturel. Donc ça va générer des réflexions entre eux, des échanges. Autre clin d'œil qui existe au travers de ces personnages, il est orthodoxe, elle est catholique. Donc c'est un clin d'œil à l'histoire de l'Europe, le schisme entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident. Il se trouve aussi que la mère donc de Léonidas, qui est grecque, a travaillé un peu dans les services secrets. Son mari était ambassadeur. Il se trouve aussi que le père de Françoise, lui, est descendant d'un grognard de Napoléon, qui a connu la Grande Armée. Donc Napoléon a joué un rôle significatif dans l'Europe, hein, avec beaucoup de dégâts suite à ces passages ici ou là. Donc on voit qu'au travers des personnages, petit à petit, se fait un dessin, de l'histoire de l'Europe abordé par tel ou tel biais. Et puis on évoque aussi dans le livre, puisque la fille de ce couple qui s'appelle Léa, elle est journaliste, assez entreprenante, etc. Et elle s'intéresse à ce qui se passe en Russie, notamment à ce qui se passe en Ukraine actuellement. Donc elle a des contacts, elle va se renseigner, etc. Il lui arrive différentes aventures. Donc c'est l'occasion aussi de voir que, l'Europe aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle est en train de faire, et puis c'est les problèmes qu'elle rencontre actuellement aussi, qui sont évoqués, qui donnent une certaine actualité au livre. Donc chaque personnage, au-delà de ses caractéristiques propres, permet d'évoquer tel ou tel aspect de l'Europe. Derrière chaque personnage, il y a un petit paysage qui mérite d'être observé.
Alors, une petite particularité sur la période au cours de laquelle se déroule le roman. Manifestement, on comprend que la période commence en 1992 et se termine fin 2024. Alors, à cet égard, ça amène quelque chose d'assez fort dans le roman, parce que on se trouve pris dans l'histoire, dans une histoire qui n'est pas terminée, mais que peut-être le narrateur connaît, puisque il écrit.
Pour tout vous dire, je ne connais pas la fin de l'histoire. Mais ce qui est important à noter, c'est que dès les années 92-93, ce qui s'est passé en Europe et dans l'Est de l'Europe, en Ukraine et en Russie en 2022 jusqu'à 2024, était annoncé, était prévisible. On voit que les différents protagonistes qui échangent, qui font un certain nombre de choses dans les années 90, eh bien, ce qu'ils évoquent se réalise quelques années après. Et ce qui est à noter aussi dans le livre, c'est que le conflit actuel Ukraine-Russie, il est toujours en vigueur, en activité, si je peux dire, à Noël 2024. Hein, alors, je souhaite pour tout le monde hein, que ce soit la paix qui soit réglée d'ici là, mais il est fort possible qu'il soit toujours, comment dirais-je, d'actualité à cette époque-là. Et le livre se termine par l'évocation de cette situation, et il se termine en même temps par le fait que la mère de Léonidas évoque son rêve, puisque la veille, elle était en train de rêver de Zeus et d'Europe, quoi. Donc, on voit bien que par rapport à quelque chose qui est en train de se poursuivre, qui est dramatique, est-ce que les valeurs fondamentales, est-ce que le mythe d'Europe va nous aider à surmonter cette épreuve ? L'avenir le dira, mais l'auteur ne l'a pas dit.
Alors, parmi les personnages, effectivement, il y a cette famille au sens large franco-grecque, et il y a beaucoup de Russes et de gréco-russes. Alors, ce qui est intéressant dans ces personnages, c'est que effectivement, ils constituent un petit peu le pivot de l'intrigue du roman, mais ils sont aussi la peinture d'une organisation sociale, notamment en Russie, de relations internationales, de relations de géopolitique. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions, par exemple, sur Alexandrov, sur Vladimir Polny, ou sur Boris Dugounov, le bien nommé?
Ce que j'ai essayé de mettre en avant au travers de ces divers personnages, c'est le dessous des cartes. Il y a la réalité. L'Europe, est-ce qu'elle est ? Il y a un conflit actuellement. D'un côté, on voit bien, au travers de Léonidas qui fait de l'import-export tranquillement, mais il est mêlé à une histoire de sous-marin et une histoire de drone. Donc on voit bien que lorsqu'il y a des conflits, malgré tout, il y a toujours du commerce, il y a toujours des relations. D'un autre côté, on voit bien sur des sujets d'actualité, puisqu'il y a, comment dirais-je, un personnage qui joue un peu ce rôle-là, l'importance de ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire la communication, plus ou moins vraie, mais la communication pour mettre en avant tel sujet, telle idée, ou pour déstabiliser tel ou tel concurrent. On voit aussi au travers du chef d'entreprise qu'il y a des médias qui se spécialisent, comment dirais-je, et c'est plus que jamais d'actualité avec l'intelligence artificielle, dans le fait de collationner beaucoup de données, de data, comme on dit, de les redonner à l'influenceur qui les retravaille, etc. Donc, il y a quand même un peu de réalité dans ces choses-là, même si ce n'est pas, comment dirais-je, directement mis en avant. On voit bien que dans des périodes compliquées et conflictuelles, il y a tous ces facteurs-là qui jouent, qui ont sans doute toujours existé, la désinformation, les agents secrets, toutes ces choses-là, c'est pas nouvelle. Sauf qu'aujourd'hui, avec les technologies qui existent, c'est beaucoup plus puissant et ça prend de l'importance. Et ça joue un rôle non négligeable dans un certain nombre de situations, qu'elles soient commerciales, diplomatiques ou conflictuelles.
Et alors, vous décrivez à cet égard ce que l'on peut qualifier le rôle d'influenceur, on pourrait le qualifier de politique, de géopolitique même, et qui peuvent venir servir les États et peut-être les intérêts des États au-delà de leur propre territoire.
Oui, c'est évident. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui qu'on en connaît sans doute qu'une toute petite partie. Et on voit bien dans tous les pays aujourd'hui l'accent qui est mis en matière de défense sur tous ces outils-là, sur la façon de se protéger, de mettre en place des pare-feux, si je peux dire. C'est des choses qui n'existaient pas autrefois. Donc je pense effectivement que ça a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Et c'est pour ça que j'ai voulu, en arrière-plan du livre, souligner cet aspect-là, sachant que ces métiers-là, d'intermédiaires, dans toutes ces actions compliquées, diplomatiques, géopolitiques, économiques, philosophiques, c'est des métiers dangereux. Le livre le montre.
Tout à fait. Et à ces personnages qui jouent dans l'influence, dans l'information, dans la communication, voire dans la désinformation, vous faites apparaître le clergé, le clergé orthodoxe et le rôle de l'Église aussi en France par rapport aux croyances spirituelles des personnages purement français.
Ça m'a paru assez évident, assez nécessaire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans le mythe, dans la légende, il y a Zeus. Il aurait pu ne pas exister. Mais, or, il est dans la légende. Hein, il y joue un rôle déterminant. Hein. Donc, même si c'est un peu en arrière-plan, dans le côté du mythe, il y a la notion de Dieu des dieux. Donc, ce qu'il faut noter aussi, c'est que cette notion-là de la religion, elle a joué un rôle très important dans la construction, dans l'évolution de l'Europe. Hein. J'évoquais le schisme tout à l'heure, j'évoquais dans les Grecs aussi, dans l'avenir, dans le passé de l'Europe, on ne peut pas non plus obliger le rôle des Romains. Hein, donc l'Église, les conflits entre les catholiques et les protestants, le rôle du judaïsme avec ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays d'Europe, l'islam qui a occupé l'Espagne jusqu'en 1492. Donc le passé de l'Europe est très fortement marqué par le fait religieux et on ne peut pas l'ignorer, c'est l'histoire. Hein, c'est l'histoire. Et on voit bien aujourd'hui que ces sujets-là reprennent une certaine actualité de façon différente, mais ce sont des choses importantes parce que derrière la notion de religion, il y a, comment dirais-je, la notion de philosophie, la notion de conception de l'homme, la notion de place de l'homme dans la société, de relation avec les autres. Donc, par rapport à ce que sont mes thèmes habituels, lorsqu'on parle d'Europe, on ne peut pas négliger ce facteur-là. Ensuite, chacun peut faire ses choix en termes de religion, ou repousser complètement, etc. C'est un autre sujet, j'entre pas, moi, dans mon livre, dans ces débats-là. Mais je dis que c'est une réalité et le fait même que Europe ait été enlevée par Zeus, ça montre bien que dès le départ, le fait religieux avait de l'importance.
Voilà, et qu'il est présent dans la réalité comme il est présent dans votre roman. Alors, Pierre Tabarin, quand on reçoit un romancier, il a créé des personnages. Et j'aime toujours demander aux auteurs la manière dont ils choisissent le nom des personnages. Alors, ici, j'ai vu que vous vous étiez un petit peu amusé. Vous faites un certain nombre de clins d'œil. Mais il y a aussi des noms avec une signification. Et en particulier, le nom de famille de Léonidas, qui est Oikos, qui a une signification bien particulière, si vous pouvez nous la préciser.
Oui, oikos, c'est la maison. C'est la maison en grec et c'est l'origine du mot économie, puisque l'économie, c'est chez les Grecs la gestion, la bonne gestion de la maison. D'ailleurs, on l'oublie trop souvent, sous son double sens, parce que la maison, ça sous-entend deux choses. Un, la maisonnée, c'est-à-dire la famille, le côté humain, et la maison, éventuellement le côté immobilier, matériel, il y a les deux dans la notion de maison. Hein. Ce qui est intéressant à noter, parce que ça montre que l'économie, hein, ce n'est pas une science dure comme la physique, c'est une science humaine, où il y a bien sûr des phénomènes techniques, économiques, financiers, mais aussi il y a une très grande part d'humanité dans l'économie. Donc effectivement, il s'appelle Léonidas Oikos, c'est pas par hasard, quoi. Et puis il est né à Delphes aussi, c'est là aussi, par rapport à ce que vous évoquiez sur les influenceurs, le rôle de la Pythie, bien évidemment, qui était peut-être la première des influenceuses.
Voilà. Alors, vous vous amusez aussi sur la déclinaison des noms. Donc, je cite pour nos éditeurs le pop-corn, le permanent et le perpétuel, naturellement. Donc, on voit que vous avez voulu créer des petits clins d'œil pour créer une ambiance. Mais je précise que vous venez de le dire, mais vous décrivez longuement le rôle du spirituel en décrivant les actions et les interactions des membres du clergé orthodoxe.
Oui, il y a beaucoup derrière de spirituel et de culture. Lorsque Léonidas et Françoise se marient, je ne rentre pas dans les détails, mais ils décident de ne pas se marier religieusement. Ceci dit, ils ont une cérémonie avec un pope, une cérémonie avec un prêtre français, puis ensuite une cérémonie civile à la mairie. Et chacun de ces personnages qui les accueillent prononce un certain petit discours qui n'est pas neutre, qui a beaucoup de sens, hein, justement, sur ce côté spirituel et culturel. Et alors, dans ce domaine culturel aussi, il faut signaler Françoise, professeure d'université, qui parle de la guerre avec ses étudiants et qui leur dit, c'est quand même pas neutre, la vraie phrase, c'est pas « civis pacem, parabellum », si tu veux la paix, prépare la guerre, non, non. Si tu veux la paix, prépare ta bibliothèque. Cultive-toi, apprends l'histoire, la géographie, renseigne-toi, communique avec les autres, etc. Donc, le côté culturel, spirituel est très présent parce que je suis personnellement convaincu que ce côté culturel et spirituel est très important dans la construction de l'Europe, dans l'histoire de l'Europe, et que ce contenu spirituel et culturel, je ne veux pas dire qu'il n'existe pas ailleurs, bien évidemment, il y a des cultures très très respectables dans plein d'endroits du monde, mais elle est quand même spécifique et elle mérite d'être connue, d'être respectée, d'être promue.
Alors, au-delà du spirituel, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il y a le problème de la communication et de la compréhension entre les individus, donc le problème de la langue. Je vous propose d'écouter une petite musique de Serge Lama, Europe Babel.
L'Europe c'est mon camp, la France c'est mon nid. Je suis résolument pour tout ce qui progresse, à condition bien sûr d'en être pas puni. Cette Europe nouvelle est une vieille lune, aucun homme d'ici n'a mis le pied dessus. Table ronde, discours, déclaration commune, je te reçois, tu me reçois, on s'est reçu. Faudra-t-il chanter, si chacun y est roi, qui seront les servantes, à qui la tête haute, à qui le dos voûté, que les raisons d'État rêvent d'État de grâce, on peut toujours rêver qu'elle affiche en tout cas, si Molière, Shakespeare et Goldoni s'embrassent, en récitant des vers de Goethe et de Lorca.
D'auteur. Philippe Gilbert.
Europe Babel, Europe ma belle, que tes langues toujours, que tes langues chantent des mots d'amour. C'est le message de l'Europe.
Oh, elle est formidable cette chanson. Europe Babel, là encore, hein, un mythe, encore hein, un lien avec un passé très connu. Europe, ma belle. Donc, malgré les différences de langue, malgré toutes les différences de mode de vie qu'ils peuvent avoir, tous ces gens-là, les 450 millions d'Européens, ils ont quand même des points communs qui sont des points communs culturels, spirituels, fondamentalement, qui les réunissent, même si la façon de vivre du Suédois et du Portugais n'est pas la même. Il y a quand même beaucoup de points communs qu'ils partagent. Et c'est important de savoir mettre ça en avant et montrer que les langues finalement ne nous séparent pas. Et puis bon, c'est peut-être la rime un peu facile, mais Europe ma belle, c'est superbe.
Je rappelle à nos auditeurs que nous sommes toujours en compagnie de Pierre Tabarin pour son ouvrage « Et Zeus s'enleva Europe » paru en 2024 aux éditions Nombre 7. Pierre Tabarin, nous avons déjà évoqué un certain nombre de thèmes qui figurent dans votre roman. Alors nous avons évoqué le phénomène des influenceurs ou de l'influence en général. Dans ce roman, vous mettez en scène un influenceur et un industriel qui se sert des services de cet influenceur, et vous baptisez la prestation l'influence désintéressée.
Oui, il y a souvent aujourd'hui dans ce qui est mis en avant par beaucoup de médias cette notion, d'intérêt général qui a du sens, qu'il faut pas, sous-estimer. Et puis le bien commun, l'intérêt général sont plus que jamais des sujets d'actualité malgré tout. Quand on regarde bien, il y a quand même beaucoup d'intérêts qui peuvent exister, qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques, parce que, quelque part, après tout, chacun, chaque entité, chaque pays a bien le droit de défendre ses intérêts. Hein. Mais le côté mise en avant du désintérêt est peut-être un petit peu ironique pour se dire que finalement c'est quelque chose vers lequel il faudrait aller pour avoir le maximum d'objectivité, pour être toujours avec le recul qu'il faut dans l'interprétation des faits. Dans la pratique, c'est pas si facile et c'est pas toujours le cas.
Dans votre roman, on sent la présence de Napoléon, il y a des références, il y a une polémique sur l'origine de Napoléon, sa qualité de grec ou pas, et il y a une action qui est menée par un certain nombre de personnages de ce roman que vous avez appelé la charte du grognard. Pourriez-vous nous donner quelques détails sur cette charte ?
Alors, Napoléon est évoqué dans le livre parce que le père de Françoise descend d'un grognard, que pas de chance, il a connu que la retraite de Russie ou Waterloo, hein, il n'est pas arrivé au bon moment. Mais le grognard qui est évoqué dans la charte du grognard n'a rien à voir avec les grognards, les soldats de Napoléon, il a à voir avec le fait de grogner. Ils grognent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et la charte du grognard, elle a pour but de mettre en avant la nécessité pour l'Europe de peser. Peser économiquement, peser démographiquement, peser culturellement, peser éventuellement militairement, non pas pour agresser, mais pour se défendre. Et ce point-là est important parce qu'on voit bien la géopolitique a complètement évolué et on voit notamment depuis quelque temps la création de tout ce qu'on a appelé les BRICS, hein, donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et puis d'autres peut-être qui se joindront. Et ce qui est important à noter, qui a joué sans doute un rôle dans ces BRICS, c'est deux événements qui explique peut-être un certain nombre de choses qui se sont passées. En 2013, quand Xi Jinping est devenu le président de la Chine, il y a eu une publication du Parti communiste chinois qui mettait en avant, parmi les objectifs qu'il devait avoir, combattre la civilisation occidentale. C'est écrit. Ils ont le droit d'avoir la leur et de pas aimer la nôtre. Hein. La combattre, c'est déjà quand même une orientation forte. Et puis d'un autre côté, il s'est passé, vous savez, en Ukraine, la révolution de Maïdan 2014, qui a bien sûr beaucoup préoccupé les Russes, parce que le fait d'avoir un pays qui deviendrait juste auprès d'eux très démocratique, éventuellement qui reviendrait dans l'Union européenne, qui aurait une connotation beaucoup plus occidentale, alors qu'il a un lien très ancien avec l'est de l'Europe, Ces événements-là sont des événements très forts qui ont eu des conséquences et qui montrent que face à cette évolution, l'Europe, qui a beaucoup de moyens, eh bien, doit trouver la façon de les mobiliser de façon à pouvoir continuer à peser, non pas pour imposer quoi que ce soit, non pas pour donner des leçons, mais pour être montreur d'exemple.
Voilà. Et c'est cette expression montreur d'exemple qui résume peut-être le mieux l'esprit de cette charte, qui en fait est de dire que l'Europe doit se mobiliser, être proactive et aller de l'avant plutôt que de subir les événements. Alors, au-delà de cette mobilisation, vous examinez aussi dans ce roman le phénomène de la guerre. Et vous faites dire à vos héros, notamment, il y a dans toute nation un terreau guerrier né de son histoire et dans tout peuple un besoin récurrent de puissance. Ce qui est un constat assez effrayant finalement.
Oui, mais l'histoire l'a montré. Hein? Et je ne sais plus quel personnage à un moment donné s'interroge, Léa je crois, à une époque, et puis peut-être sa mère aussi dans un autre cadre, pourquoi y a-t-il toujours eu des guerres ? Hein? La réalité, elle est bien là. Il y a eu deux guerres mondiales, mais avant, il y en a eu tout un tas. Et depuis les guerres mondiales, ça n'a pas cessé d'avoir des guerres locales, mais qui, malgré tout, ont fait des millions et des millions et des millions de morts. Donc, pourquoi y a-t-il toujours la guerre ? Peut-être que les notions de nation, les notions d'État sont génératrices de conflits, puisqu'à partir du moment où il y a ces entités, il y a des objectifs, il y a des intérêts à défendre, des valeurs peut-être. Et puis peut-être faut-il s'interroger aussi sur le potentiel d'agressivité qui, naturellement, je peux dire, existe dans chaque humain. C'est la raison pour laquelle, Françoise dit, si tu veux la paix, prépare ta bibliothèque. Parce qu'il a souvent été dit, et je crois qu'elle le reprend dans son propos, que la culture est peut-être l'une des meilleures armes contre la barbarie.
Et vous employez l'expression, sous forme d'interrogation d'ailleurs, c'est « faut-il réarmer culturellement l'Europe ?» Et c'est peut-être ce domaine-là qui est le plus porteur d'espérance pour l'avenir.
Oui, je crois, et là encore on fait référence au mythe, parce que ce mythe il est moteur, il est porteur. Les larges yeux dont je parlais tout à l'heure doivent peut-être nous permettre, au lieu d'avoir des vues étroites des sujets, de les élargir, nos appréhensions des sujets, des thèmes d'actualité, puis d'un autre côté de voir aussi plus loin, notamment parce que au-delà des questions diplomatiques, géopolitiques, il y a aussi toutes les questions liées au climat qui créent, une autre type d'interrogation, mais qui nécessite là aussi d'avoir de larges yeux. Et alors que l'Europe n'est sans doute pas la partie du monde qui est la plus répréhensible en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on peut peut-être là aussi être montreur d'exemple en allant plus vite sur un certain nombre de sujets. Et je voudrais mettre en avant deux choses culturelles qui me paraissent très importantes dans des décisions européennes récentes. On voit aujourd'hui une explosion des réseaux sociaux qui est en train de prendre encore une nouvelle dimension avec l'intelligence artificielle qui permet d'utiliser encore davantage ces technologies. Et l'Europe a mis en place deux dispositifs que je trouve formidables, Digital Service Act, Digital Marketing Act, qui ont pour but d'interroger les prestataires de services ceux qui font le même métier que notre héros dans le livre, pour leur dire « interrogez-vous sur ce que vous mettez à disposition des gens ». Donc nous, on essaye au niveau d'Europe, au travers de la RGPD, derrière le respect de chaque personne, notamment des plus jeunes. Donc on a, par rapport à ces technologies, peut-être un petit peu de retard technologique, mais j'en suis convaincu, beaucoup d'avance humaine dans la façon de vivre avec ces outils-là. Parce qu'au moment où certains nous parlent et en rêvent, et on voit déjà tel ou tel outil de transhumanisme, de post-humanisme, si nous on en restait à notre bon vieil humanisme.
Ça serait peut-être la meilleure solution, effectivement. Pierre Tabarin, merci beaucoup de nous avoir conduits dans les méandres de l'Europe. Je recommande particulièrement aux lecteurs la lecture de ce roman qui fait découvrir beaucoup de facettes au sujet de l'Europe et qui pose bien les problématiques. Et je retiendrai de cet ouvrage la phrase que vous avez déjà citée deux fois mais qui me plaît beaucoup. Si tu veux la paix, prépare ta bibliothèque. Au revoir Pierre Tabarin.
Merci à vous, au revoir.
Merci aux auditeurs et merci à Christophe Aubry.